La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
La presse américaine se fait à nouveau l'écho ce matin des mobilisations antiracistes qui continuent aux États-Unis.
Avec un nouvel épicentre, Atlanta, et ce parking de fast-food où Rayshard Brooks, 27 ans, a été abattu par des policiers alors qu'il tentait de leur échapper. C'est arrivé vendredi et depuis, même si les circonstances de cette mort sont forcément différentes de celles de George Floyd à Minneapolis le 25 mai, eh bien, les deux noms se confondent sur les banderoles des manifestants comme sur les unes des journaux américains. L'autopsie du corps de Rayshard Brooks, indique CNN, a livré ses conclusions dimanche soir. Le jeune homme a succombé à deux coups de feu tirés par les policiers dans son dos alors qu'il tentait de fuir après avoir échappé à leur contrôle et après les avoir menacés avec le taser qu'il leur avait dérobé. Deux balles dans le dos, cela relève donc de l'homicide dans la nomenclature des enquêtes policières. Et ça, nous dit The Atlanta Journal-Constitution, ça relance forcément le débat sur l'utilisation de leur arme à feu par les policiers. Rappelons, avec le quotidien local de Géorgie, que la chef de la police d'Atlanta a démissionné samedi suite à la mort de Rayshard Brooks et que le policier, auteur des coups de feu, a été immédiatement mis à pied. Cela ne suffira pas. Nous voulons la justice et une réforme de fond des pratiques policières. Voilà ce que scandaient à nouveau ce dimanche des milliers de personnes réunies à Atlanta et ailleurs.
Ailleurs, c'est aussi en Californie où l'ombre d'autres crimes raciaux plane sur les rassemblements Black Lives Matter.
Oui, des corps d'hommes noirs pendus à des armes, ça vous rappellera, à des arbres, pardon, ça vous rappellera sans doute la terrible chanson de Billie Holiday, Strange Fruits. Mais c'est une réalité d'aujourd'hui, de ces deux dernières semaines, nous confirme The New York Times. Des passants ont découvert deux corps pendus à des arbres dans des parcs publics de Californie. L'un à Victorville le 31 mai, l'autre à Palmdale dans la banlieue de Los Angeles mercredi dernier. Dans les deux cas, la police locale a conclu à des suicides évoquant une recrudescence liée à l'épidémie de Covid-19. Mais les familles des deux hommes, poursuit le réseau de radio public NPR, contestent cette version des faits, ces conclusions tirées trop rapidement, selon donc les proches des deux hommes. Encore ce dimanche, un rassemblement a eu lieu en mémoire de Robert Fuller, 24 ans, à Palmdale. Et dans tous les esprits, il y avait cette conviction qu'il est extrêmement rare dans la communauté afro-américaine de se suicider de cette manière dans des lieux publics, que ça ne correspond en rien, disent leurs proches, à la personnalité des deux jeunes hommes et que l'empressement des policiers à conclure au suicide pourrait en fait masquer des cas de lynchage pur et simple de noirs américains. Lynchage, le mot est dans les esprits donc, mais pas encore dans les colonnes des journaux, bien sûr, qui attendent les conclusions des enquêtes pour des enquêtes qui ont finalement été ouvertes sous la pression des familles, renforcées dans leur combat pour la vérité par toute la vague Black Lives Matter. Pour ajouter aux troubles californiens, il faut également justement ajouter avec le New York Daily News qu'un troisième homme noir pendu a été découvert dans un parc, cette fois au nord de Manhattan, ce jeudi. Là encore, rien, selon les premières constatations de la police, ne permet d'indiquer de piste criminelle. C'est la thèse du suicide qui a été retenue par défaut, mais une autopsie a tout de même été ordonné compte tenu du contexte que nous venons d'évoquer. Les grands médias américains commencent à enquêter eux-mêmes sur ces morts qui interrogent, car elles renvoient, il faut bien le dire, l'Amérique à des images que l'on espérait ne plus jamais voir et qui choquent immédiatement l'inconscient collectif. Des images qui ne sont jamais loin, d'ailleurs, qui remontent à la surface depuis la mort de George Floyd. La chaîne d'info locale de l'État d'Oregon, KATU, nous apprend par exemple qu'une enquête pour incitation à la haine raciale a été ouverte ces derniers jours après qu'une peluche de singe a été retrouvé pendu par une corde à nœuds sur un panneau de signalisation au-dessus d'une autoroute. L'homme qui a signalé la chose est noir, il s'appelle Stephen Marshall et voilà ce qu'il explique aux journalistes qui l'interrogent. Pour n'importe qui, une peluche accrochée à un panneau, ce n'est rien du tout, mais pour une personne de couleur, c'est un signal, un drapeau rouge, comme une menace qui n'a jamais vraiment disparu.
Et puis pour terminer, Camille, vous inaugurez aujourd'hui une rubrique petite annonce.
Oui, parce que c'est aussi ça que l'on trouve dans la presse à travers le monde, un genre qui ne saurait être négligé et qui apporte d'ailleurs son lot de surprises à qui sait s'y attarder. On va commencer par le journal officiel suisse d'hier dimanche, repéré par le quotidien Le Nouvelliste, lequel publie donc une annonce de nature judiciaire. On y apprend qu'en octobre dernier, 13 kilos d'or en lingots ont été découverts, oubliés apparemment dans le sac qui les contenait dans un train entre Saint-Gall et Lucerne en Suisse donc. Et comme l'enquête depuis n'a donné aucun résultat, eh bien la police helvétique en appelle à la presse pour tenter de retrouver le propriétaire du magot. L'annonce donne donc 5 mois à l'imprudent voyageur pour venir réclamer son bien, sans vraiment préciser les justificatifs qui seront demandés pour prouver cette propriété. Avis donc à ceux qui voudraient tenter leur chance. Enfin, en Russie, c'est une annonce emploi, cette fois, qui fait jaser. Elle émane, selon Ruski Reporter, du musée juif de Moscou, lequel recherche un barman serveur pour son café. Sauf que l'annonce publiée dans la presse stipule clairement qu'on recherche uniquement un citoyen russe d'apparence slave. Avouez que c'est quand même fâcheux pour un musée qui est aussi intitulé Centre russe pour la tolérance. D'ailleurs, la direction de l'établissement invoque une erreur absurde, contraire à tous les principes du lieu. Elle renvoie la faute sur le sous-traitant qui a rédigé l'annonce. Sous-traitant dont le contrat a été immédiatement rompu, précise le site d'info RBK en guise de conclusion.
Merci Camille Magnard.